Vous écoutez On lit pour vous.
Tchernobyl, 40 ans après. Le temps figé, une menace qui plane. Un texte de Joseph Roche et Irina Matveïchine, paru le 19 avril 2026 dans La Presse. Il y a 40 ans, l'explosion d'un réacteur de la centrale de Tchernobyl projetait un nuage radioactif au-dessus de l'Europe. Dans les mois suivants, 100 000 habitants du secteur étaient évacués. Depuis, plus personne n'y est revenu. Ou presque. Dans la zone d'exclusion, nos collaborateurs ont rencontré ceux qui veillent sur les lieux, fragilisés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Première partie, personne ne peut dire ce qui va se passer ensuite. Tchernobyl, Ukraine. Cric, cric, cric. Sur une route de la zone d'exclusion, le compteur Gégère de Volodymyr Verbitsky commence à s'affoler. C'est pour mesurer le niveau de radiation, explique-t-il. Le visage buriné par le soleil, cet ancien liquidateur, terme désignant ceux qui ont été envoyés décontaminer le site de Tchernobyl après la catastrophe, scrute les chiffres qui s'affichent sur son écran. Passé les premières forêts, le compteur s'emballe un instant, lance un signal d'alerte, puis retrouve son calme. Sur le bas-côté, des symboles radioactifs jaunes parsèment la route. La Terre, imbibée de particules, reste dangereuse. Au loin, de poste de contrôle en poste de contrôle, sur une route de poussière amarante, se détache la silhouette massive du sarcophage du réacteur nucléaire de Tchernobyl. C'est ici qu'en 1986, il y a tout juste 40 ans, s'est écrite cette sombre page de l'histoire. Dans la nuit du 26 avril, le réacteur numéro 4 de la centrale explose. Une partie du cœur s'embrase, projetant dans l'atmosphère des particules radioactives. Les causes de la catastrophe font toujours débat. Pour l'historien ukrainien Sergei Plokhny, l'événement révèle les failles d'un système soviétique qui privilégiait le secret et la production au détriment de la sécurité. Il souligne notamment les défauts de conception du réacteur RBMK, connu de l'élite, mais dissimulé aux opérateurs. Dès les premières semaines, environ 600 000 soldats, pompiers et ouvriers, appelés depuis « liquidateurs », souvent sans équipement adapté, sont dépêchés sur le site pour contenir la catastrophe. Volodymyr, originaire de Pripyat, à seulement 5 km de la centrale, en fait partie. Laconique, il se souvient de semaines et de mois de labeur. On se levait, on travaillait toute la journée, on revenait tard le soir et on y retournait. Sous une menace constante. Au pied de l'arche, tout semble figé dans les années 1980. À l'intérieur, employés et ingénieurs vêtus d'uniformes en denim bleu indigo passent des tourniquets futuristes chargés de mesurer leur radioactivité. Le dernier réacteur a cessé de fonctionner en 2000, mais la centrale emploie toujours du personnel pour superviser le processus complexe de démantèlement et assurer la maintenance des installations de sécurité. Le réacteur 4, lui, est enfermé sous un deuxième sarcophage achevé en 2019. Haut de 108 mètres et large de 257 mètres, il est conçu pour confiner le site pendant un siècle. Situé à une dizaine de kilomètres de la frontière biélorusse, la zone d'exclusion a été l'une des premières zones capturées par l'armée russe au début de l'invasion de l'Ukraine. Les Russes sont restés du 24 février au 31 mars 2022, explique Volodymyr Valchovnik, 61 ans, chef de car à la centrale. Dès le début de l'invasion, notre personnel a travaillé sans relâche. Le 20 mars, un accord a été conclu pour permettre la relève. Je faisais partie de l'équipe envoyée pour remplacer les travailleurs. Nous avons traversé la ligne de front, accompagnés par des militaires russes. S'il ne rapporte pas de violence directe, il évoque en revanche un pillage méthodique mené par les forces de Moscou. Dans les laboratoires et les bâtiments administratifs, du matériel scientifique a été emporté, notamment des échantillons destinés à mesurer les niveaux de radioactivité, des disques durs, des documents techniques, mais aussi des véhicules et des ordinateurs. Les Russes pensaient que nous construisions une bombe nucléaire. Kirillo Akinin, employé d'un laboratoire de la zone d'exclusion. Les Russes ont pillé du matériel très coûteux. Depuis, notre travail est devenu beaucoup plus compliqué, explique Kirillo Akinin, 35 ans, employé d'un laboratoire de la zone chargé de surveiller la contamination radioactive. Mais au-delà des pertes matérielles, des coupures d'électricité causées par les bombardements et de l'arrêt de certaines coopérations internationales, notamment avec le Japon, c'est surtout la menace d'un retour des troupes russes qui pèse sur le personnel. Aujourd'hui, nous vivons sous une menace constante. Les sirènes retentissent régulièrement. Des drones passent au-dessus du site. Volodymyr Valchovnik, chef de car à la centrale. L'un d'eux, en février 2025, a même frappé l'arche de confinement, insiste M. Valchovnik, en pointant l'impact sur le sarcophage. Personne ne peut dire ce qui va se passer ensuite. 40 ans après. Sur la place centrale de Pripyat, des autotamponneuses mangées par la rouille et les herbes n'attendent plus personne. En 1986, la ville et ses 50 000 habitants ont été évacués en moins de 36 heures. Depuis, plus personne n'y est jamais revenu. Des figures de Lénine, ici et là, au détour d'une ruelle, surgissent comme les fantômes d'un autre monde. Volodymyr, lui, se promène dans les souvenirs de sa jeunesse. « J'ai participé à la pose de ces mosaïques », explique-t-il, dans l'un des cafés de la ville. « C'est aussi ici que j'ai bu mon premier verre d'alcool », sourit-il. Au bord de la rivière, il se souvient des soirées d'été avec ses amis, et des bateaux qui les emmenaient parfois jusqu'à Odessa. Il faudra encore 300 ans avant que la zone redevienne habitable. Volodymyr Verbitsky, ancien liquidateur originaire de Pripyat. Chaque anniversaire reste une épreuve, confie Mykola Yevsilienko, 70 ans, ingénieur lui aussi originaire de Pripyat. À mesure que le 26 avril approche, les souvenirs reviennent en bloc. Je me souviens de ce que je faisais, de ma réaction. Mon chef m'a appelé à 5 heures du matin. Je lui ai demandé ce qu'il se passait. Il m'a répondu « Tu verras ». J'ai compris tout de suite que quelque chose de grave s'était produit. Il désigne derrière lui un mémorial dédié à ses anciens collègues, pour la plupart morts des suites de la catastrophe. Chaque anniversaire est difficile. On repense à tous ceux avec qui on travaillait et qui ne sont plus là. La guerre, elle aussi, a apporté son lot de difficultés. Plusieurs laboratoires ont été endommagés ou détruits, explique-t-il. Beaucoup de gens sont partis. La situation est plus compliquée que jamais, mais je continue à travailler ici. C'est toute ma vie. C'était Tchernobyl, 40 ans après, le temps figé, une menace qui plane, première partie. Un texte de Joseph Roche et Irina Matveïchin, paru le 19 avril 2026 dans La Presse. Tchernobyl, 40 ans après, le temps figé, une menace qui plane, deuxième partie. Un texte de Joseph Roche et Irina Matveïchin, paru le 19 avril 2026 dans La Presse. Il y a 40 ans, l'explosion d'un réacteur de la centrale de Tchernobyl projetait un nuage radioactif au-dessus de l'Europe. Dans les mois suivants, 100 000 habitants du secteur étaient évacués. Depuis, plus personne n'y est revenu. Ou presque. Dans la zone d'exclusion, nos collaborateurs ont rencontré ceux qui veillent sur les lieux, fragilisés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Deuxième partie, Mikhailo, l'un des derniers habitants de Tchernobyl. Tchernobyl, Ukraine. Mikhailo Pavlovitch, 90 ans, enseignant à la retraite, les mains posées sur le cœur, chante à tue-tête la complainte de Tchernobyl, un psaume qu'il a lui-même composé. Ce qui a brisé mon avenir, ce qui en a dispersé chaque éclat, nous portons nos sacrifices jusqu'aux portes de l'Europe. Sur les 230 000 habitants évacués de la zone d'exclusion à la fin des années 1980, seules une dizaine de personnes ont été autorisées à y rester. À 90 ans, Mikhailo Pavlovitch, à cause de son âge et de son caractère, est l'un d'eux. On était 17 avant la guerre. Je pense qu'on n'est plus que 7 maintenant. Mikhailo Pavlovitch, 90 ans. Il vit dans une petite maison en bois, au volet bleu, soigneusement entretenue. Blessé à l'âge de 6 ans par des fragments de bombes allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale, il se déplace depuis avec 2 longues béquilles. Il se souvient des premiers jours de la catastrophe nucléaire de 1986. J'étais à la pêche quand j'ai entendu un grand boum. C'était la centrale qui avait explosé. Les enfants de mon école ont été évacués. Mais j'ai continué à travailler environ une semaine après l'explosion. Finalement, ma femme et moi avons été évacués avec nos enfants. 3 ans plus tard, ils décident de revenir. Mon fils m'a trouvé un travail dans une église à côté. Solitude. À l'intérieur de sa petite ferme, tout est soigneusement rangé. Les murs sont recouverts d'icônes et d'images saintes. Mikhailo Pavlovitch se déplace avec dextérité d'une pièce à l'autre. Sur une étagère, avec précaution, il décroche le portrait d'une jeune femme. « C'est mon épouse. Elle était très belle », dit-il en souriant avec fierté. Son visage se ferme. Sa femme est morte d'un cancer il y a plusieurs années. Il reste évasif sur les causes. Peut-être à cause de la catastrophe. Je ne sais pas. Depuis, il vit seul et consacre son temps libre à l'art décoratif ukrainien, à son jardin et à un petit musée consacré à la mémoire de Tchernobyl. Au fil des années, l'enseignant à la retraite a glané dans les forêts alentour des casques soviétiques, des armes allemandes, des décorations surmontées d'une effigie de Lénine et diverses reliques. Livré à lui-même, sans services sociaux, Mikhailo Pavlovitch survit grâce à l'aide de ses anciens élèves. Pendant l'occupation russe, il est resté totalement seul. J'avais un drapeau ukrainien dessiné sur ma porte. Dès que j'ai su que les Russes arrivaient, je suis sorti à toute vitesse et j'ai repeint la porte en rouge. Sinon, ils m'auraient crucifié. La malédiction de Tchernobyl. Sarcastique, il estime que sa vie, intimement liée à celle de Tchernobyl, était écrite d'avance. Les massacres allemands, la terreur communiste, la catastrophe nucléaire, puis l'occupation russe de 2022. La catastrophe était déjà inscrite dans le nom, lance-t-il. Tchernobyl, herbe noire en ukrainien. Comme un psaume, il répète Tchernobyl, Tchernobyl. Il rappelle aussi que plus d'un tiers de la population de la région, avant la Seconde Guerre mondiale, était juive. Ils étaient pauvres, comme moi. Ils ont été massacrés par les nazis. Appuyé sur ses béquilles, sans emphase, Mikhailo Pavlovitch poursuit. C'est quelqu'un de clairvoyant qui a donné ce nom à cette ville. Il savait ce qui allait se passer. Les gens souffrent ici, et les eaux contaminées vont de Pripyat vers le Dniepr avant de se jeter dans la mer Noire et d'atteindre la Méditerranée. Il marque une pause puis conclut. Seuls des êtres vils ont pu construire une centrale nucléaire sur cette terre. Il faut immédiatement fermer toutes ces installations et laisser la terre se régénérer. Alors la terre et l'Ukraine renaîtront. C'était Tchernobyl 40 ans après, le temps figé, une menace qui plane, deuxième partie. Un texte de Joseph Roche et Irina Matveïchine, paru le 19 avril 2026 dans La Presse.
Attrape-t-on la fièvre des séries? Un texte de Karim Benassier, paru le 9 mai 2026 dans La Presse. Connaisseur ou indifférent, anglophone et francophone, le Québec au grand complet semble s'être enflammé depuis le début des séries éliminatoires du Canadien de Montréal. Comment expliquer la fièvre des séries, cet attachement quasi religieux à l'équipe des Maurice Richard, Guy Lafleur et Patrick Roy? La presse a posé la question à deux auteurs de livres sur le hockey et le Canadien, le sociologue Nicolas Moreau et le professeur émérite de littérature Benoît Melançon. Comment expliqueriez-vous à un nouvel arrivant ou à quelqu'un qui ne connaît rien au hockey l'attachement des Québécois aux Canadiens de Montréal, exacerbé en 2026 par ses succès en séries éliminatoires? Nicolas Moreau. Je pense que c'est spécifiquement québécois pour des raisons historiques et identitaires. Il y a un attachement à ce club-là par rapport au fait que les Canadiens français sont arrivés à exceller dans un domaine qui relevait des anglophones. On n'a jamais eu autant de polarité sur le plan politique et le Canadien arrive quand même à faire ce lien-là par rapport à l'histoire du Québec. En ce moment, avec le contexte avec les États-Unis, c'est aussi un moyen de leur résister économiquement. Ils sont beaucoup plus forts que nous, mais peut-être que ça peut se rejouer symboliquement sur la glace où on arrive à bien faire. Benoît Melançon. Historiquement, le hockey a un ancrage profond au Québec. On joue au hockey à Montréal depuis la fin du 19e siècle. Il se trouve que dans la deuxième moitié du 20e siècle, c'est l'histoire d'une réussite. Les Canadiens gagnent la Coupe Stanley à répétition. C'est une réussite sportive, montréalaise et urbaine, et tout le Québec est content. C'est une réussite linguistique en bonne partie parce que les grands joueurs de ces époques-là sont des francophones. À partir de 1942, c'est Maurice Richard, Jean Béliveau, puis Guy Lafleur. Il y a aussi une dimension de réussite au-delà des frontières. Dans les années 1940, 1950 et 1960, il n'y avait pas des masses de réussite québécoises qui sortaient du Québec. C'est à cause de cette profondeur historique et de ce que ça a représenté que ça continue à tant représenter aujourd'hui. D'où vient l'expression « fièvre des séries » Benoît Melançon. Dans la presse écrite, dès les années 1930, on parle de la fièvre du hockey. Ça fait presque 100 ans qu'on utilise l'expression. Puis, à partir de la fin des années 1960, on voit apparaître la fièvre des séries. Dans les années 1990, l'expression devient très populaire. La fièvre des séries, évidemment, ça marche bien parce que les séries sont au printemps, c'est une fièvre printanière. Il y a une liaison entre les deux choses, la renaissance au printemps et ce qui se passe avec le hockey. Certains associent l'émeute du Forum en 1955, après la suspension de Maurice Richard, au déclenchement de la Révolution tranquille. Qu'en pensez-vous? Nicolas Moreau. Pour certains, c'est quand même un point de départ de la Révolution tranquille. Mais ce n'est pas l'avis de Benoît Melançon, il vous le dira. Ça s'inscrit dans le paradigme de ce qu'on appelle en sociologie le sport comme terrain de résistance, où vous voyez par exemple aux Jeux olympiques de Mexico en 1968, Tommy Smith et John Carlos le point levé. Vous savez, même les joueurs francophones du Canadien n'avaient pas le droit de s'exprimer en français dans le vestiaire. Le sport peut toujours permettre de résister un petit peu aux inégalités sociales, à la discrimination des droits. Techniquement, c'est ce qu'on appelle l'idéal démocratique du sport. Benoît Melançon. Je suis un intellectuel, donc moi, ma job dans la vie, c'est de compliquer les questions. Depuis un certain nombre d'années, pas depuis si longtemps que ça d'ailleurs, on fait une corrélation automatique. L'émeute égale la naissance de la Révolution tranquille. Ça suppose une chose qui m'embête beaucoup. Que l'émeute est un truc uniquement francophone, donc les francophones se seraient rebellés en 1955 et de nouveau au moment de la Révolution tranquille. Bien sûr, le 17 mars 1955, à Montréal, il y a une dimension francophone, nationaliste, mais il y a une très forte dimension montréalaise. Les gens qui sont au Forum, qui sont là pour appuyer Maurice Richard, oui, il y a des francophones, mais il y a aussi plein d'anglophones qui sont là ce soir-là. J'aime bien insister aussi sur le fait que le 17 mars, c'est la fête des Irlandais et qu'il y avait là pas mal d'Irlandais qui célébraient autre chose que le hockey. Sainte-Flanelle, allumer des lampions, le pèlerinage de Jacques Demers à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré en 1993, les fantômes du Forum. Comment expliquez-vous l'omniprésence de l'iconographie religieuse autour du Canadien? Nicolas Moreau. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir pastoral. Pour gagner, on doit d'abord gagner son salut. Le Canadien présente aussi des traits religieux, avec des valeurs très fortes sur le plan familial. Par exemple, dans une société comme la nôtre où les aînés n'ont plus de place, ils font venir les aînés du club. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du religieux, du rituel avec l'orgue. On avait même organisé une cérémonie pour déménager les fantômes du forum. Il y a là une dimension religieuse. Bon, ça ne répond pas complètement aux critères d'une religion, mais il y a là des traits religieux. C'est marrant parce que dans une société qui est aujourd'hui très athée comme le Québec, il y a comme un retour d'une forme de religiosité ici. Benoît Melançon. La religion a été omniprésente au Québec jusqu'au début des années 1960 dans toutes les facettes de la vie. Tout ça a disparu très vite. On a gardé deux choses du passé religieux du Québec, le vocabulaire liturgique, les sacres, et cette association de la religion et du sport. Cette association apparaît dans les années 1950, mais de façon négative. Ce n'est pas bien que le hockey soit considéré comme une religion. C'est une religion commerciale, vénale, on a déjà le catholicisme. Puis, dès les années 1960, au contraire, là, il y a une valorisation. Et dans les années 2000, on entend ça absolument partout. Mais c'est une drôle de religion. Montréal est la Mecque du hockey, c'est du religieux, mais pas catholique. Les fantômes du forum, personne ne sait qui c'est. Il y a des gens qui disaient à un moment donné que Guy Lafleur faisait partie des fantômes du forum, alors qu'il n'était pas mort. Il y a toutes sortes d'affaires qui se greffent autour des Canadiens. La tradition, le patrimoine, la religion, la langue. On peut prendre les Canadiens et parler de tous ces sujets. Croyez-vous que le Canadien soit un outil d'intégration des immigrants au Québec? Nicolas Moreau. Je suis français d'origine, je suis arrivé ici en 1998 et c'est une des premières choses qu'on m'a dites. Il faut que tu regardes la série du siècle. Il faut que tu saches qui est Maurice Richard. Ça m'a aidé comme immigrant, ça m'a aidé aussi comme sociologue. Ça m'a permis de comprendre un petit peu plus l'histoire du Québec. La complexité des relations entre francophones et anglophones, elle est très bien cristallisée dans l'histoire du Canadien. C'était « Comment attrape-t-on la fièvre des séries? » un texte de Karim Benassi, paru le 9 mai 2026 dans la presse.